things I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma.
Cette émission est préparée par Aïssatou Ndoye, Boris Pino, Sarah Dion, Clémence Marie et Sophie-Catherine Gallet. La prise de son est assurée ce soir par Ludovic Auger et à la réalisation, c'est Alexandre Fougeron. Autour de moi ce soir pour une dispute consacrée au cinéma, Corinne Rondeau, Antoine Guillot et Thierry Chaise, avec à notre programme Asako 1 et 2 de Ryusuke Hamaguchi, Undercover, une histoire vraie de Yann Demange, Invasion Los Angeles de John Carpenter, c'est une ressortie en version restaurée, et le coup de cœur sera celui de Corinne Rondeau pour une autre ressortie, L'Enfer dans la ville de Renato Castellani. Enfin, il y a toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute, et ce soir, c'est le DVD du film Qu'est-ce qu'on attend de Marie-Monique Robin. Et nous ouvrons cette dispute avec Asako 1 et 2 du japonais Ryusuke Hamaguchi, sorti mercredi dernier sur les écrans. Son dernier film Senses avait été acclamé par la critique. C'était un film fleuve en plusieurs épisodes tourné avec des acteurs non professionnels. Cette fois-ci, c'est un film un peu plus classique, apparemment 2 heures, une histoire d'amour double, celle d'Asako. Un jour, son premier grand amour s'évanouit. Elle quitte alors la ville d'Osaka pour commencer une nouvelle vie. Elle rencontre à Tokyo un homme qui ressemble trait pour trait à son bel amant disparu. Sans lui dire, elle commence alors une longue et sérieuse relation amoureuse.
リョウヘイさんを知ってるの?知ってるわけがないや。言うつもりでいる。けど私、リョウヘイに言うてないことがある。アサちゃん。
Et c'est Antoine Guillot qui commence à nous parler de Asako 1 et 2.
Alors vous parlez d'un film beaucoup plus classique en apparence, en tout cas, parce que effectivement, pardon, ça commence comme un... Excusez-moi, c'est vraiment l'hiver qui me...
Chat.
Qui me gagne comme le petit chat du comme le petit chat du film, parce qu'il y a un petit chat qu'on poursuit comme dans Diamant, comme dans Diamant sur canapé. Oui, mais c'est le moment où Corinne était dormait. Et c'est un film qu'on voit dans les deux états. Le titre japonais, ça ne vous aura pas échappé. Et même si je dors, même si je suis éveillé, et on voit le film dans cet état oscillant comme ça, entre un film qui commence apparemment de façon très classique, un coup de foudre, on part vers une comédie romantique, puis qui subit une première saison et qui va en subir plusieurs. D'abord parce qu'effectivement, d'habitude, il fait des films beaucoup plus longs. Donc là, devant ramasser son intrigue en 2 heures, il n'a pas peur de la coupe et de l'ellipse. Et surtout, il nous place peu à peu dans un état comme ça de flottement. On n'est pas très bien sûr de ce qu'on voit. On se demande comment cette jeune femme ne peut pas se rendre compte que c'est quand même la copie exacte, cet amant numéro 2 de l'amant numéro 1. Mais nous-mêmes, on est en train de se dire, mais est-ce que c'est le même personnage? Est-ce que c'est même le même comédien? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Et le film fonctionne en fait de plus en plus sur ce qui semblerait être alors on ne sait pas si ce sont des hallucinations, des images mentales, des rêveries. Le film pourrait être entièrement un rêve, ou alors la psychose totale d'un personnage qui voulant revivre, comme dans Vertigo, une histoire qui a eu lieu, une histoire primordiale qui la marquera à jamais, modèle le monde, en fait, à hauteur de ses fantasmes, et en train de reconstituer complètement ce qui se voit. Donc, une histoire qui pourrait être prise et qui est présentée comme extrêmement naturaliste, comme une évidence de ce qui est en train de se raconter, nous place tout d'un coup, à la limite et même souvent au-delà du fantastique, sans qu'on sache exactement sur quoi ça se joue. Ça se joue sur des principes de mise en scène qui, dans les deux parties, sont extrêmement différentes et semblent épouser l'état psychologique du personnage, mais ça joue jamais réellement sur le psychologisme. C'est-à-dire qu'on est à suivre ce personnage tout en nous posant énormément de questions. Donc c'est un film d'une complexité derrière son apparent classicisme, comme vous disiez, qui fonctionne sur des systèmes d'écho en plus entre les différentes parties et qui n'a pas peur de s'aventurer très loin dans l'invraisemblable apparent, et alors qu'on le suit de manière très naturelle. Donc on ne sait pas trop si on dort ou si on rêve quand on voit ce film.
Je reviendrai vers vous. J'ai pas vraiment compris si vous aimiez le film ou pas, mais on va en reparler. Thierry Chasse, premier regard sur
fiche,
ce film.
Ah, non, film,
moi je m'en fiche pas. Par
non, mais c'est une question qu'on se pose en le voyant et même longtemps après. C'était donc en compétition au Festival de Cannes, dans la volonté de Thierry Fimaud de renouveler un peu les auteurs. On a une quarantaine d'années, 40 ans, je crois, ce réalisateur-là. Donc c'est pas tout jeune, mais malgré tout, il n'avait jamais été présent à Cannes. Alors oui, on est un peu perturbé parce que ça a au départ l'apparence d'une bluette. On ne peut plus classique, vraiment du film romantique qu'on a donc déjà vu un milliard de fois. Et ce qui va être intéressant, c'est quasiment toutes les questions que ce film va poser au spectateur. C'est-à-dire que le spectateur, pour moi, devient totalement acteur de ce film à travers les questions qu'a exactement posé Antoine Guillot, à travers ce questionnement qui est de savoir finalement, mais est-ce que il y a d'un seul la deuxième partie qui est la vie de couple rangé de cette jeune femme et finalement le prolongement à l'inverse de l'espèce d'amour adolescent totalement fou du début. Est-ce que il y a l'une va véritablement influencer l'autre. Est-ce que pourquoi elle a à ce point, on a l'impression qu'elle s'entête à ce point-là sur son passé, ou est-ce nous qui fantasmons des choses? Il y a en tous les cas quelque chose sur ce film, moi, qui m'a plu, c'est que c'est un beau film sur juste qu'est-ce qu'être aimé et aimer en retour. Des choses aussi basiques, aussi simples, mais qui sont comme ça distillées par un cinéaste, en effet, par d'un seul coup, la présence massive d'un hors-champ, je pense notamment à des scènes autour du tsunami, par exemple, où il y a plein d'éléments, et où il laisse le spectateur se faire totalement son propre film. Alors, certains pourront trouver de bout en bout que c'est une bluette qu'on a déjà vue, mais si on s'attache à chacun disposé, comme le petit poussé, on va retrouver un chemin qui n'était peut-être pas celui qu'on avait justement envisagé au début.
Corinne Rondeau.
Oui, alors j'ai dormi, effectivement. Mais je vais vous dire aussi pourquoi. Mais pour alors, évidemment, comme vous le dites, ça, c'est le début d'une bluette, mais je ne pense pas du tout qu'on puisse penser ce qu'on veut sur ce film. Je trouve que ce film est d'une tenue assez remarquable dans ce récit qui est finalement prend un stéréotype du cinéma sur les histoires d'amour. C'est-à-dire que les grands drames, c'est toujours la deuxième fois quand la... Enfin, pour moi, c'est si on a en tête la femme d'à côté, hein, y a la rencontre qui sidère, comme au début, Nazako. Et puis, rupture, on ne sait pas parce que ce n'est pas possible. Bon, là, en l'occurrence, il va pour acheter je ne sais plus quoi. Il disparaît, il ne revient plus. Donc, il faut reconstruire seul une vie rangée. Effectivement, un personnage ressurgit trait pour trait, qu'elle reconnaît. Mais effectivement, on a ce trouble en se disant, est-ce que c'est le vrai acteur ou pas. Mais j'ai dormi dans la partie de la vie conventionnelle. C'est-à-dire que c'est pas une vie qui a de l'esprit. C'est une vie de petites choses auxquelles il faut s'attacher, à savoir comment on répond à quelque chose qui est reconstruire et en même temps découvrir que l'autre a compris, que quelque chose d'une histoire avant lui était passé là. Et on se dit, ben voilà, ça va passer comme ça. Mais évidemment, il y a le retour. C'est-à-dire le moment... ça joue au cinéma, ça joue sur le déjà-vu, le déjà là. Et il a une manière, le réalisateur, de couper les jambes à ce qu'on a vu au cinéma. Et c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que tout ce truc qui vous met dans une certaine lenteur, une certaine attention aux petits détails, la manière dont on doit reconstruire, d'être dans le travail, dans l'habitude du quotidien, la vie domestique, la famille, etc. D'un coup, cette petite chose va éclater et il le fait de manière, je dirais, en mouvement avec sa caméra, notamment à l'aide d'une chose qui revient, c'est un pont. Ils partent d'Osaka vers une ville près de Fukushima qui est sinistrée. Et on va voir ce pont aller-retour plusieurs fois. Et ce qui est absolument admirable, je trouve, dans ce plan, simplement ce plan, c'est un plan très très lointain, avec ces petites voitures qui passent sur ce pont, donc c'est une suspension. Et en même temps, ce pont, parce qu'ensuite elle va reprendre un bus quand l'autre sera parti, elle va décider elle de reprendre ce chemin seul. Mais le chemin seul, c'est autre chose. Et je trouve que d'aller d'un point à l'autre sur ce pont qui vient faire revoir aux spectateurs, c'est une manière de troubler le lieu, de troubler les lieux d'habitude. C'est-à-dire qu'en fait, il est aussi en train de, sans rien faire, sans rien dire, sans expliquer, t'es en train de parler du trouble de l'affect. Comment je passe d'un affect à un autre affect quand justement il se passe dans le quotidien des événements qui touchent au plus profond des sentiments. Et là, je trouve qu'il est absolument génial. Et la dernière demi-heure est purement géniale. Purement géniale. Il y a des plans. Je veux dire, cette course derrière ce garçon en contre-plongée, mais aussi cette maison qu'ils veulent avoir tous les deux. Bon, moi, je suis épatée.
On va parler de la mise en scène. En effet, cette course dont vous parlez, Corinne, elle est assez saisissante parce que donc c'est la fille qui court après le garçon. Et en même temps, il y a la lumière qui les suit et on a l'impression qu'il y a exactement la même distance entre les deux personnages que entre la fille et la lumière qui progresse. Moi, ça m'a un peu affolée de génie de mise en scène tellement que je suis restée peut-être un peu extérieure au film. Antoine Guillot, presque trop brillant.
Il y a un génie de la mise en scène, mais qui, au contraire, j'ai pas du tout eu le même sentiment que vous. Donc, je peux vous dire que j'ai aimé ce film, puisque ça vous inquiétait. Qui justement, je trouve qu'elle se voit pas. C'est-à-dire qu'elle crée ce trouble de l'affect dont parlait Corinne Rondeau, y compris pour le spectateur. Et il me semble que dans cette histoire qui joue beaucoup sur une question de triangle, qui devient, qui prend des formes après assez inattendues, joue aussi avec une triangulation avec le spectateur lui-même. Et le dernier plan pour ça est très clair. Il me semble, ce qui fait qu'on ressent des choses qui peuvent être de l'ordre d'une secousse sismique qu'on ressent ou pas, qui sont amenées purement par la mise en scène. Alors effectivement, quand on a ce plan large, puis ce travelling qui suit des personnages qui courent, ça se voit, mais la plupart du temps, ça a l'air très anodin, ça a l'air de collecter des gestes du quotidien, du leur et des gens qui sont autour d'eux, alors qu'en fait, c'est extrêmement, extrêmement brillant. Et puis moi, ce qui me trouble beaucoup, parce que le temps, le film ne dure que 2 heures, mais il traverse une dizaine d'années, le temps qui est filmé prend le temps de regarder les personnages, et notamment cette jeune femme qui n'est pas une comédienne au départ, ou qui est une comédienne débutante, parce que l'autre, il me semble qu'on l'a beaucoup vu,
chez
Kurosawa, qui est le maître vraiment d'école de cinéma de Hamaguchi, c'est Erika Karata, et il se passe des choses en elle, l'évolution de son personnage, mais la façon dont on ressent réellement son intériorité en la voyant sans avoir besoin d'artifices, de dialogues, de trucs de mise en scène, justement, est très troublant. Il a un rapport avec elle qui fait ressurgir quelque chose, et ça c'est très rare, un cinéaste qui arrive à provoquer ça chez la personne qu'il filme.
Thierry Chaise.
Oui, c'est vrai qu'on pense d'ailleurs, parliez de Kiyoshi Kurosawa, on pense beaucoup à ce cinéma-là dans l'idée du spectre, finalement, dans l'idée de est-ce que ce deuxième personnage n'est pas masculin, n'est pas une invention et n'est pas une vue de son esprit. Moi, j'ai aussi pensé à Harmonium de Kouji Fukada. Et ce que je trouve aussi très bon dans la mise en scène, c'est le plan du premier regard entre eux, c'est-à-dire lorsqu'elle le voit, lorsqu'il se voit pour la première fois. Je trouve qu'il y a un plan que moi je trouve absolument magnifique, une musique, un ralenti, des choses qui, chez tant d'autres,
serait kitsch,
sont grattés et kitsch, et qui d'un seul coup donne le ton et donne un parfait écho avec tout ce qu'a décrit tout à l'heure Corinne Rondeau, qui paraît beaucoup plus maîtrisé et presque plus de l'ordre du génie. Mais je trouve que ce coup de départ participe aussi au fait que, et c'est ce que j'ai aimé moi, qu'on ne sache pas où on est et d'être capable de faire, voilà, d'aller vers une imagerie qu'on a déjà beaucoup vue et créer de l'autre côté des choses qu'on se dit, mais je ne sais pas où je l'ai vu. Rassembler tout ça en l'espace de 2 heures et avec une histoire aussi tenue fait que c'est vraiment, pour moi, un très très beau film en effet.
Corinne Rondeau.
Ah oui, non mais le Hamaguchi tient absolument sa corde, mais il la serre très très fort. Et c'est cette manière dont j'ai été même surprise d'être happée par la dernière demi-heure, parce que quand le trouble de l'affect se met en œuvre. Et il est scandé à certains instants, notamment ce passage où le Baku, le premier amant lunaire comme ça, génial, hyper cool, machin, ressurgit sous les affres évidemment d'un spectre ou d'un revenant, mais aussi d'une image, d'un pur fantasme, hein, puisqu'il est sur des affiches, il travaille dans la mode. Et elle part avec lui. D'ailleurs, chaque fois qu'elle part avec lui, il a soit un accident, ils ont un accident scooter. C'est drôle au début parce que c'est la bluette. Et à la fin, elle lui dit arrête-toi, va-t'en. Et là, ils sont près de la mer, il y a une digue, et elle monte sur cette digue. Et ce plan est génial. Parce que cette manière d'ouvrir comme ça le plan vers la mer, c'est de devoir déchirer le fantasme que représente ce personnage et toute cette histoire. Et c'est aussi, non pas se dire, eh bien, l'horizon est toujours un fantasme, mais d'inclure à l'intérieur de ce moment-là, du fantasme, c'est-à-dire l'horizon, on l'atteint jamais. Tout ce qu'on peut projeter, on l'atteint jamais. Mais il inclut à ce moment-là, l'étendue. Et ça passe comme un souffle pour le spectateur face à cet écran de mer, gros plan de l'actrice qui le regarde. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose d'un choix qui passe dans ce regard qui est fixé sur cette mer. Et je trouve que la fin du film, qui a l'air de rien, et de tout, c'est-à-dire c'est là qui coupe les pattes au drame et à la tragédie qu'on peut avoir dans ces histoires de retour une deuxième fois. Les grandes histoires d'amour, c'est toujours à la deuxième fois et c'est terminé. Hein. Enfin, c'est comme la fin de La Côté à la fin, sur leur pierre tombale, il y a marqué « ni avec toi, ni sans toi ». Et « jamais sans toi, ni avec toi ». Bon, bref, vous avez compris. Et je trouve qu'il y a quelque chose sur ce balcon à la fin où s'impose une étrange promesse où pour paraphraser ce qui se dira une beauté sale. Et c'est l'endroit juste de l'amour quand on a décidé qu'il n'était plus un idéal, plus un fantasme, mais au contraire, quelque chose qui est palpable, quelque chose qui va devoir se faire comme la mer, elle bouge, et que ce qu'elle voit sur cette digue, c'est que la vie, ça bouge et qu'on ne s'arrête pas à des clichés.
Sur la piste sismique dont vous parlez, que vous avez aussi évoqué, Antoine, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup abordé ça, mais il y a quand même aussi quelque chose de naturaliste dans le film, et notamment d'un portrait aussi du Japon, même s'il est en creux. Et au cœur du film, il y a le tremblement de terre de 2011, et en fait, cette ville dont vous parliez, Corinne, où ils se rendent et où il y a des allers-retours successifs, c'est Sendai, c'est une des villes qui a le plus souffert, qui est à côté de Fukushima, où ils vont faire du bénévolat. Et ça, pour le coup, j'ai été assez saisie de la manière dont c'est travaillé, ce sujet-là, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Tout arrive dans une salle de théâtre, il y a un noir complet, donc de fait écran noir, et c'est au cœur du film, et en même temps, ça ne surcrée rien. Oui, Antoine Ziaud.
Oui, parce que le film fonctionne beaucoup sur le hors-champ et sur l'ellipse, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de montrer les zones dévastées, etc. On les connaît, et on les connaît encore plus quand on est au Japon, de même qu'il y a tout un hors-champ qui va être l'objet même de l'interrogation, de l'enquête presque métaphysique du personnage féminin, c'est qu'est-ce que je n'ai pas vu, qu'est-ce qui se passe quand je ne vois pas. Et puis le film est nourri par un autre hors-champ qui sont les films qu'a tourné Hamaguchi après le tsunami, allant rencontrer les personnes qui avaient vécu ce tsunami. Et le film est complètement habité par ça. J'espère qu'un jour on les verra en France, ces films. On sait qu'ils existent, mais c'est très manifestement ça qui vient nourrir, sans qu'il y ait besoin de le montrer. Donc voilà, c'est encore une richesse de ce film. Il est riche de tout ce qu'il n'y a pas dedans.
Thierry Chaise.
Exactement. Mais cette confrontation, vous parlez entre cet ultra-réalisme et d'un seul coup, ces choses qui sont totalement impalpable. Moi, cette scène aussi, comme vous, m'a marqué profondément et fait partie de ces moments dans le film où je suis parti totalement ailleurs. Mais c'est passionnant, et faut avoir une foi en sa mise en scène aussi, au-delà de son récit, pour tenter ça, le tenter au tournage, le laisser au montage, et voir que finalement, cette scène symbolise en effet parfaitement son histoire. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose cette maîtrise est impressionnante de vraiment à chaque minute de ces deux heures.
Asako 1 et 2, c'est un titre qui me laisse assez pantoise, j'avoue, je comprends pas bien cette traduction du titre en français, enfin pas vraiment traduction, mais adaptation du titre japonais. Je non, vois c'est... pas bien le 1 et 2.
Ah, mais... C'est pas mal. Elle n'est pas la même au début, au milieu et à la fin du film.
Ça pourrait être le titre de beaucoup de films.
Il y a un reflet sur l'affiche, alors on voit bien qu'il y a quelque chose, une différence dans le reflet.
Admettons. Donc Asako 1 et 2 de Ryusuke Hamaguchi est en salle depuis mercredi dernier. À suivre dans la dispute, le coup de cœur de Corinne Rondeau pour L'Enfer dans la ville, Invasion Los Angeles et Undercover.
France Culture. La dispute.
On pour Sylvie ce soir avec le deuxième film du jeune réalisateur franco-britannique Yann Demange, Undercover, une histoire vraie. On peut aussi parler du titre, hein, parce que je pense que c'est un des pires titres français jamais donnés. Le titre original, c'est donc White Boy Rick, et il s'inspire donc, selon la formule consacrée, de faits réels. L'histoire de Rick Versch, jeune garçon de 15 ans qui vit à Détroit. Nous sommes au début des années 80, en pleine guerre contre la drogue. Son père répare et vend des armes, et c'est ainsi que Rick intègre un gang de trafiquants afro-américains. Il ne tarde pas à intéresser le FBI, qui décide de l'utiliser comme informateur.
How can we stay, Dad?
Detroit.
Son, lying don't leave the Serengeti. And besides, it's gonna be our year, I can kill it.
Y'all know who my dad is, right? Y'all know what he sell?
Hey, I know your broke daddy. What you said your name was?
Rick.
Alright, white boy Rick. You should come out of skating rail sometime. But not like this. Or like you robbed a Kmart or something.
You good, Rick. You wanna move weight? You come to me.
If my dad finds this, he gonna kill me.
You're gonna get in too deep, and then they're gonna let you out. 8 pounds, 14 ounces. Such a way you were born. First time I looked in your eyes, I knew your life was gonna be bigger than mine.
Look at this, Dad. Look how we're living. Let's hustle big. And we can do this. We can fix our lives and be a family again. What do you say?
Would you believe a 15-year-old kid was working for the federal government?
But he was.
Corinne Rondeau, au lieu de danser, de faire n'importe quoi. Et si vous nous parliez de ce film Undercover, une histoire vraie?
Alors, c'est peut-être vrai, mais moi, ça m'a beaucoup ennuyée. Alors, je trouve que ce film a tout de même une qualité, c'est cette volonté de ne pas surdramatiser. Il est plutôt sous-dramatisant. Autrement dit, on a donc ce jeune garçon et son père. Donc l'un va vendre ce qui est prohibé, de la drogue, et le père va vendre des armes qui sont parfaitement autorisées par la Constitution. Et on voit bien que le schéma et le cercle vicieux se font tout de suite, même si le film, au départ, on a l'impression de rentrer dans une comédie familiale avec le grand-père, les grands-parents qui arrivent au milieu de la rue. Ça s'engueule et on se dit bon, c'est le gros bordel, une famille américaine middle class, très très middle class, voire plus que ça, puisqu'on a Détroit, c'est la fin des haricots, on est dans les années 80, c'est les années 80, c'est le capitalisme à la Reagan qui arrive, donc c'est vraiment la situation de délitement total. Donc comment s'en sortir dans une situation comme ça? Donc il y a le père qui fait son petit trafic, et puis il y a le fils qui fait son gros trafic et qui va être repéré par le FBI, et il va collaborer avec le FBI. Alors bon, tout ça est très bien, et c'est pas explicatif, mais en même temps on a compris que le cercle vicieux aux États-Unis, ce qui n'est pas autorisé, c'est aussi le système qui permet son autorisation, c'est-à-dire une vente permet l'autre, puisque quand vous intégrez un clan de pègres, eh bien, le père vend les armes et le fils va participer, justement à ce truc-là. Alors bon, moi, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Je trouve que on s'en sort comment? On s'en sort pas bien, je dirais, dans ce film, parce que rien ne tient. Si vous voulez, j'ai pas eu de fresque de Detroit avec trop d'informations. Il y a des scènes super cool dans les boîtes à patins à roulettes. Évidemment, ça m'a rappelé ma jeunesse. Mais au-delà de ça, si vous voulez, de s'emballer, même s'il n'y a pas Donna Summer dans le film, ce qui est dommage.
Ouais, la musique est super, vous pouvez pas y retirer.
Oui, c'est super. J'ai trouvé que tout était cool, mais il y a des choses qui sont lourdes. Par exemple, ce jeune garçon qui regarde tout le temps la compagne du patron de la pègre, on se dit que bon, il va finir dans son lit. C'est gros comme une maison. On n'a pas non plus un portrait très marqué des personnages. Donc j'étais assez frustrée. J'étais heureuse de me dire bon, il évite certains écueils qui sont la violence à tout prix, le côté de dénonciation ou de l'injustice. Mais par ailleurs, j'étais un petit peu j'étais un peu affligée, quoi. J'ai regardé souvent ma montre, que je n'ai pas d'ailleurs.
Thierry Chaise.
Bah, c'est décevant par rapport, je trouve, à son précédent métrage, appelé 71, qui était une vraie plongée pour le coup là, où on aimait à la fois ce que le film n'était pas, mais surtout ce qu'il était, c'est-à-dire le conflit nord-irlandais vu de l'intérieur. Là, c'est donc son premier film nord-américain, et on a toujours la peur, pour certains cinéastes, de s'aventurer là, et je trouve qu'il s'y perd. Alors, en effet, il évite beaucoup de pièges, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le crime à grand spectacle. Habituellement, c'est donc, ce qu'on a bien compris, undercover, une histoire vraie, donc... Voilà, c'est une véritable histoire vraie, une véritable histoire vraie aux États-Unis. On en fait généralement des héros. Alors, ça peut être le personnage de Denzel Washington dans American Gangster, ça peut être Tom Cruise dans Barry Seal. Il n'y a pas ça. Il y a une volonté, comme un peu dans 71, en effet, de raconter cette ville. Donc, il y a des moments dans Détroit qui sont intéressants. En effet, au début de l'aventure Reagan, il y a Nancy Reagan qui explique aux jeunes que la drogue, c'est mal. Donc, voilà, et elle est peu entendue, en fait, à Détroit. Donc, il y a ces moments-là. Mais ils sont pas assez nombreux parce que il y a un cahier des charges, j'ai l'impression, qui est à remplir. Il y a un cahier des charges aussi au niveau de l'acteur. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que Matthew McConaughey crie à chaque plan ou presque, donnez-moi un deuxième Oscar. Voilà, c'est un comédien qui avait débuté assez mal, qui depuis quelques années revient au cinéma d'auteur, mais à chaque fois on a l'impression qu'il faut en faire un peu plus, qu'il faut composer. Donc, mais en même temps, dans ces films-là, c'est aussi ces éléments. Et il essaie de... Donc cet aller-retour entre ce que le film en effet n'est pas et ce qu'il devrait être ne marche pas. Je trouve qu'en l'arrivée, il n'est pas grand-chose en fait. Il est plus dans la négation de « voilà, je ne suis pas tombé dans ces pièges-là ». Mais il manque du coup un souffle, un romanesque, un regard, celui qu'il avait en 71.
Antoine Guillot.
Je crains de rajouter une pelletée sur ce pauvre film, parce que c'est un film qui est effectivement complètement coincé. C'est-à-dire qu'il veut tellement ne pas faire une histoire de gangster, ne pas glorifier, ne pas rendre ça... ne pas montrer le côté... Parce que vous dites que c'est cool, mais c'est pas trop cool. C'est-à-dire qu'il faut...
C'est pas du tout un film branché.
Non mais vous voyez, c'est-à-dire que la scène de patin roulette aurait pu être une scène formidable qui entraîne. Lui, il dit, oulala, faut pas quand même que je rende ça glamour. Alors, je vais montrer quand même le bling-bling, mais je vais quand même pas et comme ça, donc il est sans arrêt coincé, parce qu'en même temps il a un matériel extraordinaire sous les yeux, il a des potentialités d'histoire formidables, mais il y a déjà un énorme problème de scénario, je pense. Alors je sais pas si c'est au stade du scénario ou s'il y a eu des grosses coupes dedans, je ne sais pas si c'est lui ou des producteurs, mais il y a des pistes qui sont annoncées, il y a des moments qui sont évoqués, qui sont ils ont l'air assez importants, mais qui sont complètement évacués, cette histoire de corruption municipale qui tout d'un coup est réglé entre deux plans. Là, on peut se dire c'est un geste formidablement audacieux parce qu'il veut se recentrer sur le centre vraiment de ce qu'il veut raconter. Mais qu'est-ce qu'il veut raconter finalement? Qu'est-ce qu'il raconte puisqu'il évacue tout ce qui pourrait être intéressant sur Détroit qu'on voit, mais qu'on voit quand même beaucoup comme un décor. C'est une ville qui a tellement été filmée depuis des années sur sa potentialité dramaturgique qu'il est quand même très en dessous de ce qu'ont fait les autres. Il va pas nous raconter la corruption municipale. Il va pas nous raconter ce que c'est, parce que le titre, c'est quand même l'histoire d'un jeune homme blanc qui est dans un gang noir, mais pareil, il l'évacue en trois répliques en disant, ah bon voilà, comme t'es blanc, tu vas être mieux traité que nous parce qu'on est noir, donc c'est dit à chaque fois, il n'est pas capable de le montrer cinématographiquement parlant. Donc le centre, le cœur de cette histoire, c'est une très habituelle et très banale relation père-fils de famille dysfonctionnelle, d'un fils qui va finir par dire, papa je te fais confiance, décide pour moi, et d'un père qui va finir par dire, je suis vraiment désolé, j'ai été un mauvais père, et on va mettre des larmes pour essayer de nous faire pleurer. Alors vous parlez de la musique, oui, la musique diégétique, c'est-à-dire ce qu'ils écoutent est formidable, c'est la musique de l'époque. La musique extra-diégétique, la musique de film, c'est une catastrophe totale, signée Max Richter, qui, sans vouloir en faire trop, nous met quand même des cordes sans arrêt, va essayer de nous faire pleurer au moment où il y a des larmes, parce qu'on voit bien que ça suffit pas. Donc c'est un grand ratage, ce film. Alors je suis comme vous, j'étais assez intéressé par le côté presque jeu vidéo qu'il y avait dans 71, c'est-à-dire l'idée de ce personnage perdu en milieu hostile, qu'on suivait en permanence, et qu'il devait essayer de s'en sortir dans un territoire qu'il ne maîtrisait pas, qu'il ne connaissait pas. Là, c'est tout le contraire, ils sont censés maîtriser leur territoire, mais lui, Yann Demange, manifestement, ne le maîtrise pas du tout.
Oui, il y avait une fluidité, en fait, dans ce premier film, qui n'y a pas du tout dans le second. Moi, je serais quand même moins dur que vous, je sais pas comment le défendre, là, du tout. Du coup, je me sens très, très seule. Moi, je vois, en fait, à quel point il est écrasé par l'arsenal, et j'ai l'impression qu'il trouve des petits compromis, et que le sous-régime a fini par m'intéresser. Le fait, justement, que tout soit un peu effleuré. Moi, je trouve pas qu'il en fasse des tonnes sur la relation père-fils. Je trouve qu'au contraire, le fait d'avoir ne serait-ce que choisi, même si c'est pas volontaire, probablement, on lui a imposé, mais un acteur qui vient d'un lycée casté, qui a été casté complètement sauvagement, et cette espèce de gros monstre qui est Matthew McConaughey, qui joue tout le temps la même chose concrètement, ça fait que moi-même, quand je les ai tous les deux dans le plan, je n'y crois pas une seule seconde au fait qu'ils soient père et fils. Et bon, c'est probablement pas du tout volontaire et pas fait exprès, mais je trouve ça presque intéressant de les voir dysfonctionner en tant que couple, et du coup de voir
c'est la perversité brechtienne de votre part.
Non, mais après je suis d'accord sur le fait qu'il est écrasé, par les références de films de gangsters. On voit bien, il y a un moment où les personnages regardent Serpico, j'imagine que c'est un peu ça qu'il a voulu faire, et bon, ça fonctionne pas très bien. Corinne Rondeau.
Non, alors moi, 71, j'avais pas trop aimé le film parce qu'il m'avait traumatisée, totalement traumatisée. Donc j'avais ma réserve qui était la violence qu'il avait produite sur moi. Mais il était absolument génialissime dans la manière dont il avait voulu montrer un conflit d'un point de vue dont personne ne l'avait filmé. Et je crois qu'en fait, il veut faire la même chose aux États-Unis. Le problème, c'est que c'est pas les mêmes histoires, c'est pas la même culture, et que les Américains font des films ce sont des empiristes, ils expliquent tout le temps, de A à Z, c'est très bavard. Il a évité ce bavardage, mais en même temps, qu'est-ce qui reste? Pour moi, ça reste du commentaire. Son film est un commentaire sur une certaine situation, et là, je rejoins Antoine. Vraiment, cette manière dont la fin se ficelle avec deux bouts de rien du tout. C'est vrai, avec papa, je te fais confiance, et mon fils, voilà, j'ai pas été le bon père, je croyais que tu serais mieux que moi, meilleur que moi. Et là, on se dit, oh ben zut, alors que, par exemple, la potentialité du FBI, je veux dire, je me rappelle plus le nom de cette actrice que j'adore, parce Jennifer qu'elle a toujours une tête de sorcière, on se dit, elle a
là,
toujours...
C'est à contre-emploi.
Elle a toujours un mauvais coup dans l'aile qu'elle va sortir. Et là, c'est pas assez. Et je suis d'accord que c'est pas la peine d'en faire des caisses sur la question de la loi, justement, qui condamne les 600 grammes. Au-delà de 600 grammes, lui, il avait 8 kilos. Il faut juste dire, parce que c'est ça qui compte, et on les a dans les cartouches à la fin du film, c'est un blanc qui est en prison. Les noirs font leur prison, mais ils en sortent, et lui, il y reste. Et il en sort juste parce qu'on bizarrement, il sort au moment où le film, on fait un film sur lui.
Et c'est pas vrai, il est toujours en prison en Floride.
Oui, arrête-il pour d'autres choses. Histoire, mais, là où je me suis posé la question, je me suis dit, mais finalement, c'est un film contre le FBI. C'est-à-dire, au moment où tu traites avec nous, t'as le droit de faire des gros coups, mais maintenant que t'as pas demandé l'autorisation parce que tu veux sauver ton père avec un vidéoclub et tu veux sauver ta sœur de la drogue, là, tu nous as pas demandé l'autorisation, donc tu pars au cabanon. Et tu pars au cabanon parce qu'on n'a pas eu le gros poisson qui est le maire de Detroit. Donc, à un moment donné, on se dit, bon, si c'est ça, pourquoi avoir fait ce film ?
Oui, sur la question politique et notamment du commentaire de ce que c'est la situation à Détroit dans les années 80, moi j'ai plutôt apprécié ce retrait. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai lu qu'il y a beaucoup de critiques américains qui reprochent à Yann Demange son traitement des personnages noirs, en disant il n'a pas assez pris position, il n'a pas assez parlé de ce que c'était être un blanc au milieu
des trafiquants noirs. Il le répète 15 fois, nous on est des noirs, on est maltraités, on va aller en prison, toi tu n'iras pas. Enfin, bon.
Si on voit le film de Bigelow sur Détroit l'année dernière, c'est complètement autre chose et c'est... Je trouve intéressant de voir
justement
ce que peut être un point de vue non américain sur cette question-là, à un moment où on
moi je trouve qu'il a trop voulu marquer le coup du point de vue. Je ferai pas comme vous.
Ouais, c'est ça.
Sauf qu'il y a un moment où je pense que quand ce mec est capable de faire 71, bah on attendait quand même une sorte d'amplitude et au contraire un point de vue. Là, je trouve que le point de vue, il est extrêmement flottant.
En fait, oui, je pense. Oui. Thierry Chasse.
Et on a reproché au-delà de leur absence, c'est surtout le côté caricatural, c'est ça qui est beaucoup ressorti, mais qui pourrait être aussi pris presque comme un parti pris vers la tour du réalisateur. Moi, j'ai l'impression c'est assez terrible ce film, parce que on a l'impression, on se dit, ah tiens, voilà ce qu'il veut faire, mais c'est pas les mêmes budgets que 71, c'est pas les mêmes producteurs, c'est pas les mêmes choses, et qu'à un moment, et c'est sans doute au montage aussi, une autre direction, et que ce côté on traite un peu de tout, je vous en mets un peu plus de chaque pour faire rentrer. Moi, j'y vois aussi le travail d'un producteur au montage qui dit attention, t'as pas parlé de ça, attention, t'as pas parlé de ça. Alors que sur 71, je pense qu'il avait les coudées plus franches.
En fait, l'histoire de ce film, c'est qu'il y a deux boîtes de production qui, depuis des années, essayent de trouver un réalisateur pour le faire. Ils ne se sont pas parlé, donc ils avaient en parallèle des projets. Et c'est lui qui s'est retrouvé avec quatre producteurs sur le dos. Et donc, j'imagine un nombre de contraintes. Voilà. Mais c'est assez symptomatique d'un certain fonctionnement du cinéma hollywoodien, Antoine Guillot.
Bah, tout s'explique. Alors, j'ignorais cette dimension ultra produite. Et là, c'est une une catastrophe à cause de ça, probablement. On peut lui faire ce crédit, avec aussi quelque chose d'assez cynique dans la production de ce film, qui est les années 80 sont à la mode. Donc, voilà, Stranger Things à la télévision, quantité de films. Et ça devient intéressant de voir comment on singe les années 80 à l'image. Et ça passe beaucoup par la photographie. Donc là, c'est Tad Radcliffe, directeur de la photographie britannique, qui était déjà derrière la caméra pour 71, qui va abuser de tous les clichés qu'on peut avoir sur qu'est-ce que c'est un film années 80. Donc on va filmer avec des contre-jours, histoire d'obtenir de beaux flares à l'écran. On va s'apesantir, mais pas trop, parce que c'est toujours aussi le côté un peu entre deux chaises du film, sur l'extravagance, selon si on aime ou pas, ou la laideur de certains costumes, mais sans jamais en faire quelque chose. C'est-à-dire que ça devient juste le cliché qui fait qu'on reconnaît immédiatement, effectivement, que ça se passe dans les années 80. Ça devient un peu fatigant.
Vous y voyez pas une forme un peu de cynisme ou d'ironie, justement, sur le traitement du cliché? Et moi, j'ai l'impression qu'il filme, justement, les années 80 à Détroit comme une forme, déjà, de cliché de film, de cinéma.
Alors là, vous lui faites encore crédit, à mon avis, parce que vous voulez vraiment défendre ce film, je crains que ce ne soit qu'une tarte à la crème de la façon dont, voilà, et dont les producteurs ont conçu ce projet, certainement en dénichant cette histoire méconnue qui permettait de représenter les années 80. On sent aussi qu'il y a certainement une influence de The Wire sur la façon de vouloir montrer sans charger vraiment aucun personnage, en voulant expliquer, mais voilà, ne serait-ce que pour une raison de durée, et là les gros problèmes d'écriture et de montage, pour tisser un réseau qui explique réellement ce qui se passe, parce que tout l'aspect FBI est pareil, disparaît complètement dans les limbes. Enfin, il y a une potentialité formidable dans ce film.
Et l'acteur principal, Rich Merritt, qui est premier rôle, ouais, vous a pas du tout intéressé, par exemple, Thierry Chasse?
Ça m'a intéressé quasiment en contre-champ de Matthew McConaughey, en effet. Non, je trouve que lui, il tient parfaitement son rôle, qu'il en fait pas 10 kilos, et que pour une première à l'écran, c'est bien. Mais même dans les seconds rôles, il y a Belle Paulet, qui est une actrice britannique, on connaît peu ici, qui était géniale dans un film qui s'appelait Diary of a Teenage Girl en 2015, qu'on voit là. Non, moi, enfin, à part Matthew McConaughey, c'est vraiment pas un problème de comédien, ce film, du tout.
Bon, dans quelques instants, on quitte Détroit, on va à Los Angeles avec Carpenter, mais tout de suite, c'est le coup de cœur de Corinne Rondeau. On ne quitte pas la prison pour autant ce soir, Corinne. C'est l'enfer dans la ville.
Oui, c'est un film carcéral. C'est un film où les femmes sont en huis clos. C'est une prison de femmes. C'est un film de 58. C'est le dixième long métrage de Renato Castellani. Et je ne résiste pas du tout à vous conseiller d'aller voir. Il ne sera qu'à Paris dans une salle. Il sera aussi à Toulouse, à Grenoble et à Avignon pour l'instant, de voir la magnifique, la divine Anna Magnani, qui va avoir des petits problèmes avec Giulietta Masina, parce que c'est la rencontre de deux monstres, après l'une pour Rome, Ville ouverte, et l'autre pour La Strada. Ce film est absolument, je trouve, assez génial, même si c'est un film néo-réaliste, plus pauvre qu'on peut l'imaginer après les De Sica, après les Rossellini, mais c'est, il a son naturalisme. C'est quelqu'un, Renato Castellani, qui a travaillé avec beaucoup d'acteurs non professionnels. Il y en a dans le film, il y a aussi d'anciennes condamnées dans ce film qui jouent à côté de ces deux grandes actrices. Mais c'est pas le destin que de deux femmes. C'est aussi donc Lina, qui est jouée par Giulietta Masina, et Egle de Anna Magnani. Mais c'est aussi le troisième destin d'une Marietta, qui est jouée par Cristina Gaioni. Si l'une va rentrer et sort en permanence, non, c'est la taulière, c'est Anna Magnani. Vous avez Giulietta Masina, qui joue une naïve qui s'est fait évidemment avoir par son Antonio d'Adonis, l'Adonis comme il l'appelle, pour une complicité de vol avec effraction. Et puis on va comprendre qu'elle a été une pimbèche, elle a cru à l'amour, et finalement elle va être prise sous l'aile de Egle, Anna Magnani. Et puis il y a cette autre femme, cette jeune fille je dirais, blonde aux yeux bleus, même si le film est en noir et blanc, qui va rencontrer l'amour sur un tabouret, par la fenêtre d'une salle de bain, et par un miroir, où il y a une scène comme ça avec Anna Magnier, où elle crie pour deviner le nom de ce garçon, et avant de trouver son nom, avant même que quelque chose se produise entre les deux. Et ce qui est merveilleux dans ce film, l'histoire se trouve dans un lieu clos, donc ce sont des prisons, mais le corps de ces femmes est tellement présent. On les a entendues crier dans la bande-annonce, là. Moi, j'ai été effarée par ces cris, enfin, ces chants, cette manière de rire aussi, qui est tellement impressionnant que c'est presque comme des cris, mais ça n'en est pas. Cette manière dont cette organisation de femmes se fait, Anna Magnani qui n'est jamais à la bonne heure que les autres, qui bouge les murs, et donc ces cellules bougent sans arrêt. Les femmes ne sont jamais dans la même s'il y a les bonnes sœurs, chaque fois qu'ils remettent de l'ordre, elles arrivent en noir et blanc, comme le film. Pour chaque fois, elles n'ont pas d'histoire, ces bonnes sœurs, simplement pour mettre de l'ordre, on va dire. Et Anna Magnani qui ensuite va protéger cette Marietta. Et ce qui est beau dans le film, c'est que, indépendamment de la manière de filmer l'architecture, puisque d'origine le réalisateur était lui-même architecte, il a fait des études d'architecture. Il y a une scène aussi un peu en extérieur pour une lessive où il y a une femme qui a perdu son enfant, qui est absolument magnifique en termes de plan. Et cette Marietta, elle va pouvoir, on va dire, si l'une va re-rentrer, parce qu'elle va il y en a l'une qui va sortir, Massina va sortir pour rentrer, Magnani n'en sort pas et l'autre va en sortir. Et ce qui est beau, c'est que cette femme qui prend deux femmes sous son aile, c'est une manière de dire qu'on ne sait jamais ce qu'on transmet à l'autre. Parce qu'évidemment, Anna Magnani n'est pas contente que Giulietta Massina revienne en prison très très bien habillée et ayant marché sur le pavé romain.
L'enfer dans la ville de Renato Castellani ressortira mercredi prochain, le 9 janvier, en version restaurée dans quelques salles. Guettez-le.
La dispute. France Culture.
Et c'est toujours la dispute et je vois les yeux qui frétillent car nous parlons maintenant d'Invasion Los Angeles de John Carpenter. Il est ressorti dans les salles mercredi dernier mais cette sortie avait été précédée d'un DVD il y a quelques semaines. Invasion Los Angeles est un film de 88 qui suit de près un des échecs les plus retentissants de Carpenter à Hollywood, les aventures de Jack Burton. Là on découvre John Nada, ouvrier au chômage qui débarque à Los Angeles, trouve un petit boulot sur un chantier, un logement et un ami Frank dans un bidonville. Il y observe une étrange communauté qui se réunit dans une église, et l'arrivée soudaine de la police qui détruit violemment tout le camp et disperse ses adeptes. De retour sur la scène des émeutes, il découvre un stock de lunettes noires qu'il se dépêche de chausser, et il constate avec effroi qu'elle lui révèle un monde peuplé d'extraterrestres malveillants.
More and more people are becoming poor.
The golden rule. He who has the gold makes the rule. You need a place to stay?
I'm walking a white line all the time. I don't bother nobody. Nobody bothers me. You better start doing the same.
What's your problem?
I gotta show you something.
No, you ain't showing me nothing.
Try these on.
Look at them. They're everywhere.
How long have they been there?
What are they? Where do they come from?
We are their cattle.
I have come here to chew bubblegum and kick ass.
Got one that can see.
Don't interfere, you can't win.
Thierry Chaise, est-ce que vous l'aviez vu en 1988, Invasion Los Angeles?
Non. Et je l'ai vu là pour la première fois.
Non. Ouais,
exactement. Parce que j'avais raté sur grand écran et j'espérais
Personne
une ressortie.
Revient, là. Non. Si, c'est
j'espérais une sortie, ouais. Dans la sortie sur grand écran et en profiter. Et quel régal! Quel régal et quelle chance donc de l'avoir vu aussi tard et mal et surtout alors qu'on m'avait dit du bien donc le mythe était là. Non, on est donc Ronald Reagan décidément à l'honneur. Alors là, on n'est pas au début, on est à la fin. Là, ça c'est bon, tout se termine. On est en 88, son deuxième mandat va se terminer. C'est l'époque aussi où dans le cinéma américain, les Yuppies ont tendance à s'en prendre plein la figure. Alors on leur fait vivre des cauchemars surréalistes, que ce soit chez Scorsese avec After Hours, chez Demi avec Dangereux sous tout rapport. Oliver Stone monte le Yuppie dans Wall Street, mais ce qui est quand même le plus rigolo, le plus intéressant et le plus juste, c'est dans des films plus fantastiques, c'est Robocop de Verhoeven, et donc c'est cette invasion Los Angeles. Ce qui est véritablement passionnant là-dedans, c'est un, c'est une vraie série B, drôle comme il faut, la coupe de cheveux magnifique années 80, le mulet du héros qui s'appelle Nada et ce n'est pas pour rien. Et puis il y a évidemment la double lecture qui est à la fois la révolte donc de Carpenter contre cette Hollywood qu'il a brisé d'un seul coup. Il veut se venger à tout prix et contre ces extraterrestres qui sont là. Et puis il y a une lecture beaucoup plus politique et qui est évidemment intéressante, c'est que qu'est-ce que montre Carpenter là? Qu'en fait, son héros, au départ, c'est quelqu'un qui croit en rêve américain, qui, lorsqu'il débarque à Los Angeles, pense que finalement, il va trouver du travail. Bref, cette Amérique à laquelle il a toujours cru est devant lui. Et puis, ça ne va pas marcher. Et il va, d'un seul coup, donner l'impression de s'être égaré. Il tombe dans ce bidonville. Et soudain, il voit que ce monde américain, ce rêve américain est brisé. Et ses lunettes vont lui permettre de donner la vérité. Et qu'ensuite, il y a la manière, évidemment, de le raconter, qui est ce passage. Donc, où la vérité est en noir et blanc et le mensonge est en couleur, qui fait que sur le fond, sur la forme, sur quelque chose de très sérieux avec quelque chose aussi de beaucoup plus drôle, ce mélange-là fonctionne pour moi à chaque plan, que je me suis régalé, que je suis heureux de l'avoir enfin découvert.
Corinne Rondeau.
Oui, peut-être je cite Jean-Baptiste Thoré, le spécialiste, mais je crois qu'il écrit d'ailleurs la réalité sociale est toujours touche toujours à quelque chose d'extraordinaire. Donc d'où cette manière de vouloir lier le capitalisme et la dimension politique américaine avec la science-fiction. Donc il faut pas être étonné de voir des extraterrestres dans ce film puisque effectivement c'est le capitalisme contre la colère et le film est formidable, je trouve, dans tout son début, dans la mesure où ce type est un gros catcheur, on peut le dire, il a une dégaine comme ça, le film est un peu filmé comme un documentaire au départ quand il arrive dans Los Angeles, et c'est un mec gentil, tout gentil, il arrive, il n'y a pas d'emploi pour vous, oh, c'est pas grave, merci madame, elle lui dit même pas au revoir, il a le sourire quand même, bon voilà, tout va bien, il est grand observateur, bon voilà, c'est, tout va bien, il travaille comme un âne pour rien gagner, il est tout gentil, et puis effectivement, ses lunettes, puisque c'est l'opérateur finalement, c'est la prothèse qui permet de révéler la réalité telle qu'elle est, sous les affiches, qu'est-ce qu'il y a, sous les infos, qu'est-ce qu'il y a, il y a le complot, le contrôle, le pouvoir, donc savoir, le film en fait se divise sur sa dualité des années 80 et encore aujourd'hui, hein, entre eux, est-ce qu'on résiste au pouvoir ou est-ce qu'on pactise avec lui, puisque le film se divise entre des individus qui jouent la partie extraterrestre ou bien effectivement la rébellion. Et ce qui est intéressant, c'est que dès que ce type découvre, c'est-à-dire, c'est le jeu de l'aveuglement dévoilé, enfin, on déchire le voile de la réalité. Eh bien, ce type tout gentil va devenir ultra violent, ultra. Je vous en mets plein la gueule.
Pour rien.
Je vous. Et puis, je dis des gros mots. Enfin, j'en veux. Il se découvre. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a une dialectique du visible dans ce film. C'est-à-dire que celui qui voit, c'est aussi celui qui va être vu. Et c'est à ce moment-là que le film d'action va commencer. Donc, il a une intelligence, je dirais. Dialectique et aussi très pédagogique pour ouvrir les yeux des Américains en 1988.
Antoine Guillot.
Alors, contrairement à Thierry Chaise, je l'avais vu avec impatience parce que je guettais à l'époque chaque film de Carpenter. Donc, je me souviens très bien d'avoir vu ce film en me disant waouh, un film comme ça, ça peut tout changer. Évidemment.
Tout changer au monde, vous voulez dire?
Mais on voit ça quand on est ado, on se dit c'est formidable, voilà, enfin on déchire le voile de la réalité, on saura. Je n'avais pas compris que le film nous parlait de ce qui allait arriver 30 ans après, en pire, puisqu'on sait grâce à ce film que s'il y a un changement, un dérèglement climatique, c'est pour acclimater l'atmosphère aux fameux extraterrestres et que tout ce qui est raconté dedans trouve des résonances, mais sans arrêt dans ce qu'on voit, y compris dans la violence qui est provoquée chez le personnage principal par le fait que le voile de la réalité apparente se soit déchiré ou qu'il le croit, parce qu'on peut prendre le film à l'inverse comme un grand film sur le complotisme et sur la folie que ça peut engendrer et sur la violence, en tout cas que crée une situation économique et sociale chez les personnes qui la subissent. Donc c'est un film d'une contemporanéité absolument totale. Après, je suis d'accord avec Thierry Chaise également sur le bonheur que ce film se revendique comme une série B, en utilise
tous les atours et toute la tradition, puisque cette histoire d'extraterrestres qui se dissimulent sous apparence humaine, c'est un immense classique de la SF depuis l'invasion des profanateurs de sépultures et sans doute d'autres, sauf que là ça s'est décalé, c'est-à-dire qu'avant c'était les communistes qui se déguisaient en américains, là c'est très clairement la classe dominante et la classe des riches qui s'est mise elle-même en dehors du genre humain.
C'est-à-dire et des médias.
Qui n'a plus rien à voir, oui, mais tout ça est évidemment la même chose, qu'elle n'a plus rien de commun avec l'humanité, en fait. Et c'est terrifiant à voir ça, parce que c'est le film d'un homme qui est très en colère, qui est même complètement nihiliste. Quand vous dites qu'il s'appelle Nada, il y a toutes les lectures qui sont possibles, parce qu'il n'a aussi rien pour les extraterrestres, qu'il ne le voit même pas. Il le voit, comme vous le dites, qu'à partir du moment où il est dangereux, parce que lui-même peut voir. Et il y a aussi, on peut le prendre aussi comme un commentaire même sur le cinéma, parce que cette histoire de noir et blanc qui est la réalité, la couleur qui serait le monde de la fiction, c'est exactement l'histoire du magicien d'Oz. C'est une façon de dire, voilà, le cinéma peut nous amener à voir la réalité, mais c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'il faut être armé pour ça. Et en même temps, ce personnage, qui au début était un peu circonspect, qui est un observateur, comme vous dites, bah, presque un spectateur, en fait, et qui va devenir acteur, se réalise complètement dans cette partie. C'est-à-dire à partir du moment où il devient un héros carpenterien, comme le Snake Plissken de New York ou Los Angeles, ou Jack Burton aussi, il est là dans l'éclat nihiliste, c'est-à-dire qu'on va tout dézinguer jusqu'à un ultime doigt d'honneur.
Il y a d'ailleurs une scène qui est une scène de combat qui, je crois, dure 7 ou 8 minutes et qui est en effet totalement le symptôme de cette violence-là. Et à quel point, en fait, quand je l'ai vue la première fois, je me suis dit, mais elle est totalement non motivée, parce qu'en fait, c'est une baston entre lui et son copain Franck, à qui il veut absolument mettre des lunettes pour que, voilà, le monde lui soit révélé. Elle dure 7 minutes, ça n'a aucun sens.
C'est
en fait,
la scène d'anthologie la plus célèbre, la plus célèbre du film.
Oui, parce que d'un seul coup, il n'est pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, justement. C'est en effet pour que il met ses foutues lunettes sur les yeux, et lui, ce qu'il veut, cet ami Franck, c'est surtout être le plus tranquille possible. Il voit bien quelque chose ne va pas, mais surtout, surtout, surtout ne pas voir ce qu'il faut voir pour qu'ensuite être embarqué dans une série. Et c'est ça que dit aussi Carpenter. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas juste les bons et les méchants, c'est que il y a ceux qui acceptent, qui savent et qui acceptent. Donc ça fait un dessin d'autant plus fort, et ça le fait évidemment rebondir. Et c'est pour ça, je pense pas que Carpenter était forcément quelqu'un de très à gauche et tout ça, mais là ça raconte plus sur quelque chose sur l'âme humaine, en fait, sur à quel moment on décide ou non d'agir à son petit niveau, ou on décide pour être tranquille et pour, voilà, de ne rien voir. Et le faire à travers une scène de 7 à 8 minutes de bagarre, on se dit, mais ça ne va jamais finir, et où on se réjouit à chaque seconde qui passe, c'est très très fort.
Corinne Rondeau.
Ouais, bah alors cette scène d'anthologie, c'est pour moi c'est vraiment, enfin je veux pas faire ma brechtienne, parce que là ça tourne au discours brechtien entre tous là, parce que bon, il a un peu vieilli le film. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de faire voir quelque chose à quelqu'un, c'est toujours difficile. Ça n'a aucun, je veux dire, ça vaut pour tout. Ça vaut pas forcément sur, voilà, je te donne la vérité. Hein. Je veux dire, si le cinéma nous donnait des vérités, peut-être que, et je ne crois pas que le cinéma soit là pour nous révéler la réalité. Je pense qu'elle est là pour nous donner des points de vue. Et là, pour le coup, il marque le clou, Carpenter. C'est un cinéma où le clou, il faut l'enfoncer. On est aux États-Unis. Bon, on le règle à l'américaine. Mais si on veut un peu s'éloigner et se dire que ça serait dommage que l'histoire se répète et qu'elle ne soit que de tirer sur les autres parce qu'ils ont le contrôle, c'est aussi de se dire ce n'est pas par la violence que se résout finalement, puisqu'une fois qu'ils ont déglingué le satellite, une fois que finalement il y a une partie, parce que ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il y a toujours un moment où le fait de voir, d'avoir un point de vue, ça crée des groupes. Et ça crée des groupes sans classe sociale, parce que ceux qui ont les lunettes, ils n'ont pas les mêmes classes sociales. Et ça, c'est assez formidable. Et là, se retirer de cet élément-là, c'est se dire toujours, est-ce qu'il y a des points de vue dans le film ? Et là, il met la question du point de vue en œuvre, Carpenter.
Antoine Guillot, un dernier mot.
Et puis cette scène de bagarre, c'est surtout une grande scène d'amour. D'ailleurs, ils le disent après, quand ils arrivent tout concassés à l'hôtel pour aller plus tard. Mais non, c'est pas bien, l'amour. Et le côté homo-érotique de tous les héros de Carpenter est enfin explicité. C'est une des grandes qualités de ce film.
Moi, je trouve quand même qu'il y a un passage dont on n'a pas parlé, c'est sa capacité à mettre en scène notamment les décors avec une fin où on est à la fois en souterrain et en haut d'un building et dans un vaisseau spatial avec les étoiles devant nous. Ça, c'est quand même assez incroyable.
Pour ça, le premier plan, l'arrivée du train avec les tours de loin, ce qui montre vraiment une séparation entre des espaces, c'est exemplaire.
Invasion Los Angeles de John Carpenter, c'est un DVD paru chez Studio Canal avec, je crois, beaucoup de bonus en plus. Et c'est aussi en salle, en version restaurée depuis mercredi dernier. Mais avant de conclure cette émission, eh bien, c'est le jeu de la dispute avec Sarah Dion qui va tout d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier et puis nous donner la réponse.
La question d'hier était: durant quelle décennie est né l'afroféminisme dont se revendique Amandine Gay? Et la réponse est les années 70.
À gagner ce soir le DVD du film Qu'est-ce qu'on attend de Marie-Monique Robin. Quelle est la question, Sarah?
Quel film documentaire consacré aux OGM est réalisé par Marie-Monique Robin et sorti en 2008?
Vous pouvez répondre et nous envoyer votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sur l'adresse auditeurfc@radiofrance.com. Les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet www.franceculture.fr à la page de La Dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter les émissions ou vous abonner au podcast. Rendez-vous lundi avec Arnaud Laporte, tout frais rentré de ses vacances, pour une dispute théâtre. Il sera en compagnie d'Anna Sigalevitch, Thomas Corlin et Jean-Christophe Brianchon. Au programme Songs, un spectacle de Samuel Achache au Bouffe du Nord, Je demande ma route, le spectacle de Rukiata Ouedraogo en ce moment au Lucernaire et qui ira ensuite au Théâtre de l'Œuvre. Et puis un seul en scène visible sur le site Culture Box, Laïka d'Ascano Celestini. Il y aura bien sûr un coup de cœur pour Dorine de David Gieselson au Théâtre de la Bastille. Ce sera celui d'Anna Sigalevitch.